Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Carnet de région, l'actualité régionale de la semaine proposée par les radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. En ce mois de septembre, c'est RCF Pays d'Aude qui en assure la rédaction en chef. Dans les titres cette semaine, la colocation ne connaît pas la crise. À Montpellier, elle devient la solution d'hébergement pour de nombreux étudiants. La rumeur de la semaine à Carcassonne, la fermeture du 3e régiment de parachutistes dans le cadre de la réforme des armées. Le maire a dû monter au créneau pour calmer les esprits. Opération Innovation à Lozère avec la start-up et dans le pré qui aura lieu début octobre. L'Écosse et ses Cévennes, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, ont désormais leurs ambassadeurs. À quoi servent-ils? Réponse dans quelques minutes. Le cœur d'Hérault, endroit idéal pour la pratique du VTT, à tel point que la création de parcours dédiés est envisagée. Enfin, deux manifestations ce week-end à Languedoc-Roussillon, le 5e Salon du Livre de Marvejol en Lozère et la première édition des Aigues Mortissimes dans le Gard. Mais tout d'abord, en cette période de rentrée étudiante sur Montpellier notamment, un point sur la colocation, un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Maxime Triano de Radio FM+, a joint pour nous Antonia Pierre-Santi, responsable France du site de colocation apartager.com.
Ça devient de plus en plus difficile pour les étudiants de se loger. On le savait déjà sur le marché de la location traditionnelle, mais on l'observe également aujourd'hui sur le marché de la colocation plus particulièrement. Sur Apartager, les étudiants représentent quand même plus de 50% des utilisateurs, donc une cible importante pour nous. Et ce que justement on essaye de faire de notre côté, c'est de communiquer auprès des propriétaires, lever un petit peu des freins qui peuvent exister, notamment sur la location auprès d'étudiants, pour les inciter à louer leurs biens en colocation, car mine de rien, ça permet quand même de loger plus de personnes d'un coup, et présente aussi une solution intéressante dans le contexte de la crise du logement. Le loyer moyen au niveau national se situe à environ 400 euros, qui est au-dessus de la plupart de ces villes étudiantes en dehors de Marseille et Paris. Et ce qu'on remarque sur les différents loyers par ville, c'est qu'il y a une relative stabilité. En dehors de Paris, on est passé de 500 à 540 euros de loyer moyen. Mais sur une ville comme Montpellier, on est passé de 380 à 385, donc il y a quand même une relative stabilité. Sur Montpellier, on constate quand même une propension d'étudiants encore plus importante que sur les autres villes. C'est effectivement, on est à quasiment 65% de demandes étudiantes, sachant que la tendance des jeunes actifs qui vivent en colocation a émergé. Mais sur Montpellier, les étudiants représentent quand même la part majoritaire d'utilisateurs sur Apartager.
Et d'ailleurs, grâce aux statistiques que vous avez obtenues, vous avez réussi à faire des profils types selon les villes. Alors est-ce que vous pouvez nous dire ce profil type pour la capitale héraultaise?
Tout à fait. Alors de manière générale, la colocation étudiante concerne plutôt les filles, contrairement à la colocation de jeunes actifs où le profil type est plutôt masculin. Et plus spécifiquement à Montpellier, il s'agit d'un profil donc d'une jeune étudiante d'environ 21 ans, avec donc le loyer moyen dont on parlait de 385 euros, qui représente aussi le budget moyen de l'étudiant à Montpellier pour le logement.
Une semaine particulière à Carcassonne avec l'envoi d'une lettre de 10 généraux en retraite du 3e régiment de parachutistes au ministre de la Défense. Ils sont opposés à la fermeture de celui-ci. Une rumeur qui n'a donc cessé d'enfler et qui a obligé le maire, Jean-Claude Pérez, à y couper court avec des informations à la source, les yeux dans les yeux. On l'écoute.
Il n'y a aucune raison de supprimer un régiment d'élite, de supprimer un régiment qui est opérationnel. Chaque fois que nous avons une crise sur la planète, le 3e RPIMA est présent et nous en sommes fiers. Et du Mali en Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire à l'Afghanistan, bref, le 3 et de toutes les opérations sensibles. Que des chefs de corps qui ont été chefs de corps du 3e RPIMA, des généraux qui, d'une façon affectueuse, par l'émotion, disent ben, il faut sauver le 3. Mais là où c'est grave, c'est qu'ils sont incapables de donner une information précise. Moi, l'information précise, je la donne, puisque c'est le ministre, droit dans les yeux, qui me dit le 3 ne sera pas rayé de la carte militaire.
Vous souhaiteriez la venue du ministre à Carcassonne pour qu'il confirme certaines choses ?
C'est l'idéal. C'est l'idéal. La venue du ministre, qui est loin d'être annoncée, mais moi, c'est l'idéal. Ce serait très très bien. D'abord, ça permettrait bien sûr au ministre d'apporter le salut, les encouragements à ce régiment d'élite, et ça permettrait d'une façon nette de clore ce débat qui n'aurait pas eu lieu d'être.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Une opération originale et innovante créée l'an dernier à Lunel dans l'Hérault va poser ses valises début octobre en Lozère. Il s'agit de la Start-up et dans le Pré, organisée les 4, 5 et 6 octobre à la baraque des Bouviers. Une deuxième édition qui consiste à faire venir en Lozère des personnes ayant des projets d'entreprise innovants et de les faire se confronter avec des acteurs de l'écosystème entrepreneurial innovant. Écoutez Sébastien Oziol, directeur de Lozère Développement, au micro de Ludovic Terol de 48 FM.
L'idée, c'est de se faire se rencontrer des personnes qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de collaborer à des projets d'entreprise. Quel que soit en fait le rôle qu'elles y joueront après, en termes de collaborateurs, de développeurs, éventuellement de chefs d'entreprise, c'est faire se rencontrer des talents et de faire se rencontrer des personnes qui ont envie de se mettre à disposition de projets innovants. Alors ça va se dérouler sous la forme d'un séminaire, concours à la fin, une dizaine d'équipes vont être constituées et ces équipes vont travailler sur des projets fictifs ou pas, des projets en tout cas d'exercice pour les deux jours ou des projets qui perdureront après et qui seront accompagnés par Lozère Développement. Il y a un aspect ludique, il y a un aspect plaisir pendant ces deux jours, on va s'amuser à entreprendre. L'idée étant vraiment de faire des rencontres et de faire venir des personnes qui ont des ressources, des personnes qui ont des talents dont on a besoin en Lozère pour développer nos entreprises, celles qui existent déjà et qui seront aussi présentes pour faire des rencontres et éventuellement identifier des talents aussi.
D'après Jean-Paul Pourquier, président du Conseil général de Lozère, cette opération est à la continuité des actions de promotion menées jusqu'à maintenant par la collectivité.
Cette opération s'inscrit dans le droit fil de notre politique d'attirer de nouveaux actifs avec l'opération communication qu'on a initiée à Lozère Nouvelle Vie. Bon, on est tout à fait dans le sujet. C'était l'objectif, c'est dans ces opérations de longue haleine, puisque ça ne se conduit pas par des opérations coup de poing, mais il faut aussi à certains moments savoir mettre un coup de projecteur, une opération coup de poing, sur ces sujets. Et je crois que cette opération Startup dans le Pré s'inscrit tout à fait dans cette logique-là. Je crois que c'est démontré aussi que les nouvelles technologies, la création de nouvelles entreprises, d'entreprises innovantes, n'est pas réservée aux seules grandes villes, les grandes métropoles, les grandes agglomérations, mais qu'on peut aussi créer sa propre entreprise dans la ruralité, voire la ruralité profonde, et justement, et peut-être même prendre du plaisir à créer une entreprise, de créer de l'activité dans un environnement, un autre environnement, un environnement protégé de la ruralité telle que nous la connaissons en Lozère.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gare.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gare.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Les premiers diplômes d'ambassadeurs d'Écosse et Cévennes ont commencé à être remis depuis juin à certains postulants qui font partie désormais du club des ambassadeurs. Une démarche lancée par l'Agence de développement et de réservation touristique du Gard avec le soutien du département. Elle a pour but de promouvoir l'Écosse et Cévennes inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Daniel Travier, conservateur du musée Cévenol de Saint-Jean-du-Gard et administrateur du parc national des Cévennes, nous explique au micro de Rémi Goujon de Radio Escapade pourquoi il trouve cette démarche intéressante.
J'ai trouvé que ce rôle d'ambassadeur était intéressant à plusieurs titres. D'abord, parce que j'avais l'impression que cette nouvelle de l'inscription, donc qui avait été très médiatisée, qui avait fait même un président de la République qui est venu en parler, enfin bon, je veux dire, c'était quelque chose qui, à l'échelon national, prenait une dimension relativement forte, importante. Et en même temps, dans le pays, en dehors des gens très concernés par la chose, ben ça a été reçu avec une certaine indifférence. Bon, les gens ont un truc, bon, c'est très bien, qu'est-ce que... Bon, voilà. Par ailleurs, il y a eu aussi dans le monde du tourisme un engouement, en disant, mais voilà, c'est fantastique, l'inscription fait qu'on va avoir 30%, 40% de plus de touristes, bon, etc. Ce qui n'est pas nécessairement évident. La cathédrale d'Albi, ou les remparts de Carcassonne, c'est une chose, c'est ponctuel, c'est facile, c'est ciblé. un espace comme Causses-et-Cévennes qui est immense, où le patrimoine finalement n'a pas la nature du patrimoine monumental que je viens de citer, mais c'est un patrimoine, petit patrimoine vernaculaire, diffus, des savoir-faire qu'on ne voit pas, qui existent, mais dont on n'a pas beaucoup d'éléments marqueurs à l'œil, quoi, si vous voulez. Donc je dis, là, on fait un peu fausse route en croyant ça. Et puis comme il y a une certaine indifférence, moi je trouve que c'était très bien que les professionnels du tourisme, même s'ils risquent d'être déçus par un flux certainement à la baisse par rapport à ce qui avait pu être estimé, ben, c'était important, justement comme c'est pas simple, que c'est un classement qui est compliqué, qui ne concerne pas des choses évidentes, et ben, qu'il y ait des gens qui soient un peu informés, qui soient au courant, qui puissent renseigner les gens, leur dire, ben voilà, là, les drailles, c'est fondamental, vous pouvez, vous voyez ici, bon, une lavogne à montrer ici, une bergerie, ben là, vous avez un berger qui peut vous recevoir, bon, etc. C'était important que les professionnels du tourisme, quels qu'ils soient, hébergeurs, sites, enfin, tout ce que vous voulez, puisse jouer le jeu, je dirais pas vendre, mais promouvoir cet espace en tant que inscrit au titre de l'agropastoralisme.
Du plateau du Larzac au Salagou, le cœur d'Hérault est un lieu idéal pour la pratique d'activités de pleine nature, parmi elles le VTT. En attendant la réputée Salagoumania qui aura lieu à la fin du mois, le Larzac Brebis Tour a rassemblé dimanche dernier au Kellar près d'un millier de randonneurs, malgré une météo maussade. Face à cet engouement, les collectivités locales souhaitent créer des circuits balisés sur le Larzac, dédiés au VTT, similaires aux sentiers de randonnée. Michel Combes, en charge des activités et événements de pleine nature à la communauté de communes L'Audévois et l'Arzac, au micro d'Alain Mendez de Radio L'Odev.
Ça paraît tellement naturel, c'est un terrain de jeu magnifique, hein, donc il faut tenir compte un petit peu de tous les utilisateurs, hein, c'est un petit peu mon travail moi aussi, mais c'est vrai qu'on a envie, on le voit même aujourd'hui, on monte au bloc, là, on voit partir des randonneurs, on voit des vététistes qui arrivent à vélo, qui vont faire les circuits, alors ils vont où, on ne sait pas, parce que à part les chemins de randonnée pédestre aujourd'hui, il n'y a rien de balisé, donc c'est bien qu'il y a un besoin, qu'il y a des gens qui ont envie de découvrir la nature, hein. Donc à partir de là, ce centre de ressources sur lequel il est là sera, je pense, un bel objet structurant qui va nous permettre après de pouvoir proposer aux populations, qu'elles soient autochtones ou qu'elles soient extérieures, et bien, de se promener, de traverser tout le nord du département et de se lier d'un site à l'autre et pareil au niveau de la randonnée. On travaille sur la mise en place d'un site VTT permanent qui sera agréé FFSC comme celui du Salagou, comme celui de la vallée de l'Hérault, et qui va relier sur ses extrémités, bien sûr, ces deux sites, et permettre de découvrir, en utilisant déjà des chemins existants, de découvrir, parce qu'on en a ouvert cette année pour l'événement, mais qui servent en même temps pour le site, et de découvrir en même temps tous les villages, puisqu'on va partir de Saint-Maurice-Saint-Lavasselle, Saint-Michel, Le Cross, Le Caïla, Les Rives, Rocorodonde, Romiguière, donc tout ça, donc on va traverser tous ces territoires, donc ces communes qui font partie de l'intercommunalité et qui vont permettre donc de donner un canevas du plateau, mais en même temps qui vont s'appuyer sur des chemins de VTT existants qu'on a créés déjà il y a quelques années, puisqu'ils font partie du Salagou. Le Marquesso, par exemple, qui s'en va de l'Orou, c'est des plans de la hauteur du frontal, et qui descendent dans la vallée, qui descendent sur Relève, et qui vont faire la liaison avec le Salagou.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Un salon du livre à Saint-Jean-de-Marvejols ce samedi. Une 5e édition présentée par Isabelle Roger, coordinatrice des bibliothèques de la communauté de communes 16-Cévennes, au micro de Céline Elodie de Radio 16.
Ce salon du livre, donc, est bien le 5e. On tourne tous les ans sur le territoire. Cette année, nous faisons Saint-Jean-de-Marvejols, puisqu'on va en profiter pour inaugurer la médiathèque à 18h, donc le soir, c'est ouvert à tout le monde, tout le monde est invité.
Donc le 5e salon du livre, donc, il va se passer au bord du lac, donc on croise les doigts pour qu'il fasse beau, bien évidemment.
Il fera beau.
Et alors, qu'est-ce qu'on va trouver lors de ce salon du livre ?
Alors, cette année, nous avons à peu près 32 auteurs qui seront présents de tout genre. Il n'y a pas de thème spécifique. Nous faisons exprès de ne pas choisir de thème particulier pour la bonne raison qu'on estime que plusieurs personnes peuvent venir de genres différents, de styles différents, et on va attirer plus de monde en faisant comme ça. Cette année, nous avons des gens qui viennent du coin, on va dire du Gard, de l'Hérault, des Bouches-du-Rhône, de la région PACA, Lyon aussi. Les genres, on va dire quelques-uns, cuisine, terroir, roman fantastique, des thrillers, des polars, des livres pour enfants.
Des romans historiques, je vois.
Oui, il y en a beaucoup aussi. Occitan aussi, évidemment.
Il y a de l'autobiographie, un peu de tout, hein, quand on consulte le petit flyer là sur le salon du livre. C'est vrai qu'il y a un peu de tout, du roman d'aventure, de l'album pour enfants, du drame, de la saga, des romans d'amour.
Des contes, des poésies.
Il y en a pour tous les goûts.
Tout à fait.
Et alors donc 32 auteurs qui vont être présents sur l'événement donc pour faire des dédicaces, j'imagine, parler de leurs livres.
Dédicaces, discussions, rencontres. Ils vont être là vraiment pour tout le monde.
Donc pour tous les amateurs de lecture, ça se trouve, il y a parmi vos auteurs préférés, il y en a qui viendront donc au Salon du Livre de Saint-Jean de Marvejols le 21 septembre. Parmi les plus connus, est-ce que vous pouvez nous en citer ?
Mireille Pluchard, Alain Gurly, André Gardy, Françoise Barry, Cesaret, Martine Michel, pour les Ardéchois, Yves Paganelli, entre autres, sera présent, Gérard Tessier, voilà, il y en a pas mal, hein, finalement.
Mais 32, ça fait beaucoup. Alors, il y aura aussi des animations sur ce salon du livre. Ça commence à 10h30, hein, c'est donc la journée du samedi 21 septembre.
À partir de 10h30, donc, ce sera l'ouverture au public. À 11h, à peu près jusqu'à midi, Cyril Lefaou viendra avec évidemment ses bandes dessinées, mais aussi et surtout pour faire un atelier « Comment faire une bande dessinée ?». Donc là, nous invitons tous les enfants. Des jeux anciens, modernes, en bois et généralement, grands et petits, on se met autour de la table et on joue.
Très bien, et ben merci beaucoup Isabelle Roger, ça permet d'avoir une idée plus précise de ce qui va se passer donc au 5e salon du livre de 16 Cévennes. On rappelle que c'est samedi 21 septembre au bord du lac de Saint-Jean de Marvejols à partir de 10h30. Merci Isabelle.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère. Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Enfin, une manifestation dans le Gard à Aigues-Mortes ce week-end, organisée par le Club des Entrepreneurs pour la première fois, son nom, les Aigues-Mortissimes. Présentation avec Jean Goga au micro de Bruno Boulanger de Delta FM.
Les Aigues-Mortissimes, nous avons décidé de l'étaler sur 3 jours. Là, ça va être donc vendredi, samedi, dimanche. Ce qui va permettre à chaque commerce, vu la diversité justement de nos adhérents, chaque commerce pourra organiser devant son commerce, à l'intérieur de son magasin, dans son restaurant, dans une animation personnelle. Alors, nous avions choisi le titre d'Aigues-Mortissimes parce que nous ne voulions pas marquer que braderie, parce qu'il est vrai que parmi certains commerces dont je fais partie, c'est vrai que le mot braderie n'est pas forcément très bienvenu. Et là, donc, chacun pourra faire une animation dans son commerce en fonction de son commerce. C'est-à-dire que les marchands de vêtements, de bijoux, qui arrivent un petit peu en fin de saison, pourront en profiter pour faire des promotions sur leur stock restant. Les restaurateurs, dont là, nous sommes très contents parce que de nombreux adhérents restaurateurs, on fait des repas spéciaux
Aigues-Mortissimes.
Alors soit certains offrent l'apéritif, donc on fait des vins à des prix très intéressants. Donc chacun va participer à sa manière et ça, je pense que ça va être très intéressant. Et il est vrai que en fonction du résultat, et nous espérons que ça sera une réussite, en plus apparemment la météo devrait nous être favorable, je pense que ça sera le début de nombreuses opérations. Alors ça ne sera pas toujours des opérations à but uniquement strictement commercial comme ça, mais dans notre démarche aussi, nous avons l'intention d'organiser des conférences avec des intervenants, avec des partenaires, parce que chaque commerce aussi a peut-être besoin d'informations concernant le fonctionnement, la chambre de commerce, des statistiques pour savoir d'où vient la clientèle, pourquoi la clientèle ne vient pas, ne vient plus. Mais surtout, les opérations ont été conçues pour redonner une vie au commerce local en dehors de la saison estivale. Lorsqu'on se promène dans les rues en novembre ou en décembre, c'est vrai que les visiteurs, enfin ceux qui ont le courage de venir ou l'envie de venir, il est vrai que souvent ils se heurtent à des magasins fermés. Et ça, c'est bien dommage parce que la ville est quand même, la ville d'Aigues-Mortes est quand même un écrin touristique assez important. On voit même devenir encore plus important. Et je trouve que ça serait normal que le commerce local soit présent pour accueillir justement ces touristes. Alors, même si c'est par le biais de roulement, dans le cadre par exemple des restaurants ou des bars ou n'importe quoi, mais il est vrai que si tout cela se passait bien, je pense qu'une opération pour les fêtes de fin d'année serait très intéressante.
Voilà, donc peut-être déjà en projet quelque chose pour la fin de l'année.
Ben des projets, oui, on en a plein la tête, hein, si vous voulez, on en a plein la tête parce qu'on a envie d'aller au-delà de tout ça, mais je crois qu'il faut là que chacun se mobilise et vienne nous voir pour exposer leurs idées, pour nous dire ce qu'ils aimeraient, ce qu'ils pourraient faire, ce qu'ils auraient envie de faire. Et nous, on est à l'écoute. Le CECAM, c'est le club des entrepreneurs et des commerçants d'Aigues-Mortes, c'est-à-dire c'est pas un club de 3 ou 4 personnes, c'est le club de tous les commerçants, adhérents ou futurs adhérents, et on est à l'écoute de tout le monde. Je voudrais signaler pour disons animer musicalement cette manifestation, nous avons eu la chance d'avoir la participation de la Peña Lupati qui pendant les 3 jours des Aigues-Mortissimes circuleront dans les rues de la ville intramuros, extramuros pour mettre une petite note musicale à cette manifestation qui je l'espère sera réussie.
Merci beaucoup Monsieur Goga, donc rendez-vous vendredi, samedi, dimanche pour cette grande fête en musique avec la Peña et pour d'autres peut-être à la fin de l'année alors.
Eh bien merci à vous.
À bientôt.
Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
C'est la fin de ce carnet de région réalisé et diffusé par plusieurs radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. Rendez-vous la semaine prochaine, même radio, même heure, pour une nouvelle édition.